Vous êtes bien à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 22h à Paris et à Rome, 2h de moins en temps universel.
Simon Bourtembourg.
À la une de cette édition, le protocole est lancé au Vatican après la mort ce matin du pape François. Ce soir, comme le veut la coutume, les appartements du souverain pontife seront placés sous scellé. Pour l'heure, l'émotion est évidemment immense pour les catholiques du monde entier. À Jérusalem, nous le verrons, on se souvient d'un pape engagé pour les Palestiniens. Dans l'actualité aussi, la suite de la saga juridico-politique entre Benjamin Netanyahou et le chef limogé du Sinn Bet. Nous le verrons, le premier ministre israélien est directement mis en cause devant la Cour suprême. Et puis aux États-Unis, Wall Street dans le rouge, conséquence des nouvelles menaces de Donald Trump à l'encontre du président de la Banque centrale américaine.
RFI.
L'émotion est mondiale après l'annonce de la mort du pape François. La personnalité du pape a été saluée par de nombreux responsables, et ce, y compris au Proche-Orient. Dans la vieille ville de Jérusalem, la nouvelle a pris de court certains pèlerins, qui étaient venus assister à la Semaine Sainte. Je vous propose d'écouter le reportage de notre envoyé spécial à Jérusalem, Abla Jonaidi.
La nouvelle, tombée dans la matinée, a échappé à de nombreux fidèles encore massés dans la basilique du Saint-Sépulcre en ce lundi de Pâques, à l'image de Joël, venu avec d'autres pèlerins du Burkina Faso.
C'est pas vrai, il est mort. On a prié de tout notre cœur pour qu'il se rétablisse. On priait pour que le Seigneur lui donne de poursuivre sa mission jusqu'au bout. C'est un pape très ouvert au monde, qui veut que vraiment toutes les nations rencontrent le Christ. Alors... que le Seigneur l'accueille dans la lumière de son visage.
Au milieu des vieilles pierres de Jérusalem, la personnalité du pape François peut transcender les religions. Oudi, un peintre du quartier juif de la vieille ville, était affairé avec ses pinceaux lorsqu'il a appris la mort du pape.
Normalement, je m'assois là, je peins et j'essaie de ne pas m'embêter avec les nouvelles. Cette fois, je ne sais pas. Je regardais quelque chose sur mon téléphone quand l'information m'est apparue et mon cœur s'est serré. Je me suis senti très triste. C'est quelque chose chez lui, sa personnalité, son visage, cette lumière. C'est ce que je retiens avant tout.
Ce lundi, les hommages sont nombreux. Le président israélien salue un homme de foi profonde et de compassion sans fin. Le président de l'autorité palestinienne, un ami fidèle du peuple palestinien. Abla Jonaidi, Jérusalem, RFI.
Et au Vatican, le protocole est désormais lancé. Le corps de François a été mis en bière dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe où vivait le pape depuis son élection en 2013. Toujours au Vatican, cette fois sur la place Saint-Pierre, place au recueillement. Des milliers de fidèles se sont réunis ce soir devant la basilique romaine pour une première prière publique. Des prières qui vont se succéder ces 9 prochains jours pour le pape défunt. Mais alors désormais, qui dirige le Vatican avant qu'un nouveau souverain soit élu? La réponse avec Gaëtan Plenet.
C'est le cardinal Kamerling qui prend le relais. C'est le nom qu'on donne en fait à celui qui administre la justice et le trésor, qui préside la chambre apostolique et qui gouverne aussi quand le Saint-Siège est vacant. C'est donc le cas. Et le cardinal Kamerling aujourd'hui, il s'appelle Kevin Farrell. Il est irlandais, il est à ce poste depuis 2019. C'est en réalité l'unique cardinal qui va rester à son poste. Tous les autres hauts responsables de la curie romaine doivent se démettre de leurs fonctions. Alors attention quand même, c'est évidemment très provisoire. Ce cardinal Kamerling va gérer le Vatican, oui, mais sans prendre de décision dont la validité excéderait la durée de la période de vacances, ou encore des décisions qui empiéteraient sur les prérogatives exclusives du pape, notamment ce qui concerne la nomination des cardinaux. C'est donc lui qui va décider, avec les différentes congrégations, du jour et de l'heure de l'exposition de la dépouille du pape, et puis la date aussi de son inhumation. Ça doit normalement intervenir entre le 4e et le 6e jour de la mort, ça nous emmène donc à ce week-end. Et puis après cela, calendrier encore, il va falloir évidemment fixer la date du début du conclave chargé d'élire le nouveau pape. Ça, ce sera au plus tôt dans 15 jours, au plus tard dans 20 jours.
Il vient de l'annoncer, Donald Trump se rendra aux obsèques du pape François, et de ce soir aux États-Unis, les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments publics. Une initiative donc du président américain en l'hommage du pontife qu'il décrit comme un homme bon qui aimait le monde. Il était un défenseur du dialogue entre les religions et les cultures, se souvient de son côté le président libanais Joseph Aoun, sentiment partagé dans le monde arabe par les présidents égyptien, marocain ou encore le roi de Jordanie. Et l'église orthodoxe a également rendu hommage au pape. De son côté, Vladimir Poutine s'est exprimé. Il semble avoir apprécié que François n'ait jamais reconnu une quelconque responsabilité de Moscou dans la guerre en Ukraine.
C'est un homme qui avait une attitude extrêmement positive envers la Russie, je peux le dire avec certitude. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois en personne et avons entretenu des relations par divers canaux. C'est un homme, je tiens à le souligner encore une fois, qui avait une attitude extrêmement positive envers la Russie et nous nous en souviendrons. Le fait que le pape soit décédé précisément à Pâques, je ne sais pas pour les catholiques, mais pour les orthodoxes, il y a une conviction que si le Seigneur rappelle une personne aux cieux pendant Pâques, c'est un signe spécial que la personne n'a pas passé sa vie en vain, qu'elle a fait beaucoup de bien aux gens. Je pense que c'est ainsi que cela s'est passé, en gardant à l'esprit que le pape a fait beaucoup non seulement pour ses fidèles, mais aussi pour le monde dans son ensemble. Nous présentons nos plus sincères condoléances à l'ensemble du monde chrétien, et en premier lieu, bien sûr, aux catholiques.
Le président russe Vladimir Poutine. RFI 23h05 à Jérusalem où le bras de fer se poursuit entre Benjamin Netanyahou et le chef du Sinn Bet. Le limogeage du chef de service de sécurité intérieure avait provoqué un tollé dans une grande partie de l'opposition israélienne. Eh bien, aujourd'hui, Ronen Bar contre-attaque devant la Cour suprême israélienne. Le premier ministre israélien est directement mis en cause par le chef du Sinn Bet. Un document dans lequel Ronen Bar décrit ses relations avec Benjamin Netanyahou a été remis au juge chargé de statuer sur la légalité de son limogeage. À Jérusalem, la correspondance de Michel Paul.
C'est une déclaration écrite sous serment qui est présentée à la cour par Ronen Bar. Il accuse notamment Benjamin Netanyahou d'avoir exigé de lui une loyauté complète, notamment en cas de crise constitutionnelle, autrement dit, obéir au Premier ministre et non pas aux décisions du tribunal. Le directeur du Shin Bet affirme également qu'à plusieurs reprises, le chef du gouvernement avait exigé qu'il utilise les méthodes de l'agence de renseignement à l'encontre des dirigeants du mouvement de protestation, notamment pour trouver la source de financement des manifestations. Netanyahou aurait également cherché à obtenir sa signature sur un document le dispensant, pour des raisons de sécurité, de comparaître devant les juges dans le cadre de son procès pour fraude et corruption. Et c'est à la suite du refus de Ronen Bar que Benjamin Netanyahou avait affirmé ne plus avoir confiance en lui. Pour le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, cela prouve que Benjamin Netanyahou présente un réel danger pour la sécurité du pays. Le bureau du Premier ministre, pour sa part, affirme que le document est un tissu de mensonges et que Ronen Bar apporte lui-même la preuve de son échec. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Il est accusé d'avoir dévoilé des informations sur une opération militaire à des proches. Le chef du Pentagone, un peu plus dans la tourmente. D'après plusieurs médias américains, il aurait cette fois partagé les détails d'une frappe imminente au Yémen sur une boucle signal avec des membres de sa famille. Pas de quoi ébranler la confiance de Donald Trump. Il fait un travail formidable, a assuré le président américain. Donald Trump, qui poursuit en revanche son bras de fer avec Jérôme Powell, le locataire de la Maison Blanche, a une nouvelle fois attaqué le président de la Fed, la banque centrale américaine. Attaque donc contre le banquier qui refuse toujours de se plier aux injonctions du président concernant la politique monétaire américaine. Julien Clémenceau.
Donald Trump a effectivement passé un nouveau cap. Pour le président américain, Jérôme Powell est un major loser, un grand perdant. Depuis plusieurs jours, la tension est montée de plusieurs cran entre les deux hommes parce que le président de la Fed refuse de baisser les taux d'intérêt de la banque centrale. Le banquier estime que cette mesure risquerait d'augmenter l'inflation, dont le niveau reste au-dessus de l'objectif des 2%, alors que la politique de taxes douanières de Donald Trump pourrait entraîner de nouvelles poussées inflationnistes. Une erreur magistrale selon le président américain, qui surnomme aussi Jerome Powell « Mr. Too Late », « Monsieur Trop Tard » et accuse le banquier de pénaliser la croissance américaine. Depuis plusieurs jours maintenant, il clame d'ailleurs son souhait de lui trouver un successeur. L'indépendance de la Banque centrale américaine faisait pourtant jusque-là figure d'acquis. Ce bras de fer inquiète les investisseurs. Si Donald Trump réussit par exemple, avec l'aide de la Cour suprême, à assujettir la Fed, ce sera la fin de la prévisibilité de la politique monétaire américaine.
Et les investisseurs voient rouge ce lundi. Wall Street a de nouveau donc terminé dans le rouge suite à ses déclarations. Toujours aux États-Unis, devant le Conseil de sécurité, l'ONU alerte sur la communauté internationale alors que la violence des gangs continue de se propager dans une nouvelle zone d'Haïti. Le point de non-retour est proche, prévient donc la représentante spéciale des Nations Unies en Haïti. RFI, 22h, bientôt passé de 10 minutes, ici à Paris. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.